BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, un peu plus de 19h, on est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Dans l'actualité ce soir, c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron rappelle régulièrement, nous sommes entrés en mode économie de guerre. Il l'a rappelé aujourd'hui à l'occasion d'un déplacement à Bergerac. Et il en a profité pour remettre un petit coup de pression aux industriels de la défense pour produire plus et plus vite. On va vous raconter ça dans un instant. Sinon, toujours pas de baisse de taux ce soir dans la zone euro, mais Christine Lagarde l'a dit, vous l'avez peut-être suivi sur BFM Business. Elle l'a dit sans le dire en fait, la prochaine pourrait bien être la bonne au mois de juin prochain. On vous raconte tout ça dans un instant avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure. On parlera avec eux de ces chiffres, des défaillances d'entreprises qui sont tombées ce matin, dont il ne faut pas trop s'inquiéter a priori. Alors qui sera avec nous justement dans un quart d'heure pour parler de tout ça? Marc Landré, pour Sia Partners, sera là. Bruno Alomar, le directeur général de New Horizon Partners, et l'entrepreneur Leonidas Kalogiropoulos. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM.
Good Evening Business, le journal.
Donc Emmanuel Macron à Bergerac aujourd'hui sur un thème qu'il déroule depuis 2 ans. Nous sommes entrés en mode économie de guerre. Il est allé poser la première pierre d'une usine qui va fabriquer de la poudre pour les obus. Il en a profité, je vous le disais, pour remettre un petit coup de pression aux industriels. Il faut produire plus et plus vite sur le sol français. Écoutez.
Et maintenant, c'est 500 millions d'euros qui vont être investis sur les 2 années qui viennent pour faire 2 choses qui sont au cœur de ce qui est au sein de l'économie de guerre et de ce que nous faisons ces dernières années partout sur le territoire. D'abord, continuer à investir pour accompagner cet effort de production et d'augmentation des capacités. Et puis, la relocalisation dont vous nous avez souvent entendu parler, qu'on a commencé en période Covid, qu'on a fait sur le médicament et d'autres. Et ici, la relocalisation des poudres, qui avait été en effet abandonnée, qui montre qu'il n'y a pas de fatalité industrielle.
Voilà Emmanuel Macron ce matin du côté de Bergerac. Bonsoir Thomas Asportas. Il le dit, c'est important pour nous, c'est aussi important pour l'Ukraine qui a besoin d'être vraiment approvisionnée en obus, Thomas.
Oui, c'est avant tout pour l'Ukraine, puisque le pays tire en moyenne 2 fois moins d'obus par jour que la Russie. Et d'après l'OTAN, la Russie produit presque 3 fois plus d'obus que l'Europe et les États-Unis réunis. Donc il y a un déséquilibre majeur. Et c'est pour commencer à y remédier que la France veut relancer sa production de poudre à Bergerac, chez Eurenco. C'est le fabricant historique depuis 1917, ça avait été complètement abandonné en 2007 parce qu'il n'y avait plus de commandes. C'était même devenu une friche. Et évidemment, tout a changé en 2022 avec le début de la guerre en Ukraine. Et Eurenco doit maintenant complètement relancer la machine pour, vous l'avez dit, passer en économie de guerre, produire le plus possible, le plus vite possible. Ça se traduit très concrètement aujourd'hui par un investissement sur place de 60 millions d'euros. La nouvelle usine va ouvrir très vite, dès le début de l'année prochaine. 150 personnes vont être embauchées dans les 12 prochains mois et la capacité de fabrication sur place de poudre va être multipliée par 10. C'est l'illustration de ce que veut Emmanuel Macron, à la fois en termes d'économie de guerre, mais aussi de souveraineté avec la relocalisation d'activités militaires, d'activités de défense et enfin de réindustrialisation avec la création d'une nouvelle usine et de nouveaux emplois.
Voilà pour le déplacement de Emmanuel Macron à Bergerac ce matin. Merci Thomas. Puis il se trouve qu'Emmanuel Macron était accompagné entre autres de Bruno Le Maire aujourd'hui. À un moment, vous savez, où on lit, on entend que les relations se sont clairement rafraîchies entre les deux hommes. Emmanuel Macron, en tout cas, a repris un message distillé, en particulier depuis quelques semaines par son ministre. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, hein, il le dit clairement, pour régler le choc conjoncturel actuel. On ferme tout de suite cette hypothèse. Je cite le président de la République. Dans l'actualité ce soir, je vous le disais, toujours pas de baisse de taux d'intérêt dans la zone euro. La Banque centrale les a laissés à 4%, mais Christine Lagarde a quand même laissé entendre lors de sa conférence de presse que la prochaine fois pourrait être la bonne, c'est-à-dire au mois de juin. Conférence de presse que vous avez peut-être pu suivre cet après-midi en direct sur BFM Business. Je vous le disais, pendant ce temps, Gabriel Attal est au Canada. Il vient de donner une conférence de presse avec Justin Trudeau. Évidemment, on a parlé du CETA. C'est vrai que le Sénat français a rejeté le texte il y a 3 semaines, mais Gabriel Attal a tenu à rassurer tout le monde. C'est un accord gagnant-gagnant. Autrement dit, on y arrivera. Écoutez.
C'est un accord gagnant-gagnant et on le voit aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas. Depuis qu'il a été signé, depuis qu'il est en vigueur, c'est-à-dire depuis à peu près 6 ans, les échanges entre nos deux pays ont progressé de plus d'un tiers. Et ils ont progressé de façon équilibrée. Il y aurait beaucoup à perdre pour l'économie française, globalement pour nos économies, à ce que le CETA ne s'applique pas.
Voilà, Gabriel Attal tout à l'heure du côté d'Ottawa. On parlera bien sûr de ce débat tout à l'heure avec nos experts sur BFM Business. Et puis en France, ça a donc été une des annonces choc de la journée. ExxonMobil qui réduit la voilure. Il va fermer plusieurs unités de pétrochimie en Normandie et surtout, Il va vendre la raffinerie de Fos-sur-Mer, qui est l'une des 7 raffineries présentes en métropole. Exxon explique très calmement que ses activités ne sont plus compétitives aujourd'hui. Léo Dumas.
Les unités de pétrochimie normande ne sont pas économiquement viables, assure ExxonMobil, qui dit accumuler des centaines de millions d'euros de pertes depuis des années. Le groupe américain les fermera avant fin 2024 et supprimera ainsi 677 emplois. Jean-Philippe Petit est le porte-parole d'ExxonMobil en France.
Nous avons des unités qui ne sont pas compétitives en termes de taille et en termes de consommation énergétique par rapport à ce que fait aujourd'hui la concurrence mondiale. La Chine, aujourd'hui, approvisionne le marché européen à des coûts nettement moindres que ce que nous pouvons produire sur notre site ici en local.
Pour la raffinerie de Fos-sur-Mer qui va être cédée au consortium suisse Rhône Énergie, Esso évoque aussi le maintien de sa compétitivité en France, car dans les raffineries, les coûts de l'énergie sont un vrai enjeu. L'UFIP, qui représente le secteur, déplore la forte hausse des prix du gaz et de l'électricité depuis le Covid. Et dans le même temps, la demande de produits pétroliers baisse. L'une des solutions est donc la conversion des sites en bioraffinerie pour produire des carburants à base de biomasse. Et ce sera bientôt la norme, estime l'UFIP, qui ne croit plus à des raffineries 100% pétrole en 2050.
Voilà, Léo Dumas avec nous sur BFM Business. Et puis on voulait dire un mot de cette nomination phare chez Gucci, navire amiral de Kering aujourd'hui. On vient de nommer un directeur général adjoint, il s'appelle Stefano Cantino. C'est lui qui va devoir essayer de relancer les ventes de Gucci qui sont attendues en baisse sur le premier trimestre. Hélène Cornet.
Reprise en main chez Gucci, un nouveau président, un nouveau directeur artistique et aujourd'hui un nouveau DG. Stefano Cantino avait été rendu luxe qui a passé 20 ans chez Prada, 5 chez Louis Vuitton. Un remaniement en profondeur pour relancer la marque. Le chantier est prioritaire et même impératif. Gucci, c'est plus de 50% du chiffre d'affaires de Kering, les deux tiers de son résultat opérationnel. Sauf qu'au premier trimestre, la marque ne fait plus office de locomotive. Le groupe a prévenu, les ventes sont attendues en baisse de 20% en raison de la faiblesse du marché asiatique. Contrairement à d'autres maisons qui misent sur l'intemporel, Gucci a une clientèle plus jeune et un modèle économique qui s'apparente plus à celui de la mode, avec des collections qui se renouvellent plus rapidement selon les spécialistes du secteur. Tout l'enjeu est donc de la faire monter en gamme avec des produits iconiques qui plairont à une clientèle à fort pouvoir d'achat. Le souci, c'est que cette stratégie est surtout payante sur le long terme.
Voilà, nomination phare chez Gucci. Aujourd'hui, Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 19h10, on retourne sur les marchés. Alors ces marchés, bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
Étienne Braque avec nous sur BFM Business. Le CAC 40, donc petite baisse ce soir, moins 0,27%, 8023 points à la clôture. C'est contrasté, on va le dire comme ça, Étienne, à Wall Street.
Oui, avec notamment un indice Nasdaq qui est en pleine forme, qui gagne plus d'1%, et S&P qui gagne 0,5% quand le Dow Jones fait du surplace. Donc vous avez des valeurs technologiques qui sont toujours très largement recherchées aux États-Unis. Quand vous regardez notamment hier, une correction de 10% par rapport au plus haut d'Nvidia. Et puis là, le titre part déjà de l'avant, plus 3%, avec tous les analystes qui disent il faut acheter, c'est maintenant ou jamais, surtout que TSMC a publié ses résultats, il y a toujours une forte demande. Donc vous avez des large caps qui sont là et qui trompent l'œil un petit peu cette tendance à Wall Street, plus 2% pour Apple, plus 0,8% pour Microsoft, alors que l'obligataire continue de grimper, avec notamment un 10 ans américain qui est sur des plus hauts de novembre dernier, au-delà des 4,56, même 4,60 en séance, parce que vous avez plusieurs membres de la Fed, aujourd'hui président de la Fed de Richmond, président de la Fed de New York, qui continue de dire il est beaucoup trop tôt pour baisser les taux, on n'est pas forcément à l'aise avec les chiffres d'inflation, donc les estimations d'il y a encore quelques semaines, c'est poubelle, il n'y aura pas de baisse des taux au mois de juin. Pour le marché, ça change quand même. Ça change totalement le scénario un petit peu magique qui avait été donné en début d'année, qui avait amené les indices sur des niveaux records. Et puis surtout, vous avez un dollar qui continue d'être recherché et qui se rapproche des 1,07. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle, surtout pour Christine Lagarde si elle souhaite baisser ses taux au mois de juin.
C'est poubelle, ça sera l'expression du jour. Merci beaucoup Étienne Braque avec nous sur BFM Business. 19h12, une petite pause, on revient avec nos experts dans un instant, on a encore beaucoup de choses ce soir. Christine Lagarde qui a rien dit, mais enfin on a compris. Allez, ça y est, on baissera les taux au mois de juin. Emmanuel Macron en mode économie de guerre aujourd'hui à Bergerac avec Bruno Le Maire qui était là, il y a eu une petite prise de parole intéressante. Et puis Gabriel Attal qui va ramer un petit peu du côté du Canada pour expliquer à Justin Trudeau que nous, on n'a pas l'intention justement de jeter à la poubelle le fameux CETA. Tout ça jusqu'à 20h, entre autres bien sûr, à tout de suite.
Good evening business, les experts du soir.
Allez, 19h15, ils sont là jusqu'à 20h, nos experts, pour refaire toute l'actu du jour. Marc Landré est avec nous. Bonsoir, cher Marc. Bonsoir. Consultant associé chez SIA Partners. Bruna Lomar est avec nous. Bruno, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, directeur général de New Horizon Partners, ancien fonctionnaire à la Commission européenne. Et puis Leonidas Kalogiropoulos est avec nous.
Leonidas, bonsoir.
Bonsoir, PDG de Médiation et Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Merci, messieurs.
Merci.
De venir commenter cette actu qui reste fournie, hein, malgré les vacances. Il n'y a plus de trêve, finalement, pour l'actualité.
Il y a les vacances?
Oui, on est en vacances officiellement pour les Parisiens. Oui, je sais, c'est pas votre cam. Hein, les...
C'est pas mon truc.
C'est pas votre truc fondamentalement.
Non, fondamentalement, oui. Vous avez raison.
On est heureux de vous avoir avec nous. Bon, alors c'était presque les vacances pour Christine Lagarde, qui nous a pas annoncé grand-chose aujourd'hui, qui nous a dit non, on touche pas au taux d'intérêt, on est toujours à 4%, mais enfin bon. Elle a l'air de faire passer des messages, elle a appris, hein, c'est ça les banquiers centraux. Et elle le dit a priori entre les lignes.
Il y a un tournant
et la prochaine encore. Fois en juin. Ah, ça sera la bonne. Écoutez Christine Lagarde tout à l'heure à Francfort.
Le Conseil des gouverneurs a décidé ce jour de laisser inchangés les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE. Nous sommes déterminés à assurer le retour au plus tôt de l'inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme. Nous estimons que les taux d'intérêt directeurs de la BCE se situent à des niveaux qui contribuent fortement au processus de désinflation en cours.
Assez chirurgical, hein, dans le
oui,
franchement, il n'y a pas de quoi, il faut vraiment lire entre les lignes. Non, mais en juin, ça sera la bonne, ça y est, on va commencer.
Bon, clairement, on a fait le job, c'est en train de revenir, voilà. Le truc est en train de retourner dans son lit et on va arrêter. Non, ce que je trouve simplement, on va parler ensuite de la situation de l'économie.
Ouais.
On peut pas décemment dire, ah, c'est bizarre, il y a une croissance qui est plus faible que prévu. On a jugulé la croissance. Donc il y a des arbitrages qui sont faits. Ce sont des arbitrages qui sont faits par une autorité qui est indépendante, qui est la BCE. C'est fait pourquoi, lorsqu'il y a trop d'inflation, on dit qu'il y a trop d'économie, il y a trop d'activité. Mmh. Il faut donc vraiment pénaliser l'activité. On a pénalisé l'activité.
Bien sûr.
Et donc, on va avoir dans nos sujets le nombre d'entreprises en défaillance. Tout ça est, quelque part, le fruit d'une politique.
Bruno Alomar, vous considérez qu'elle a bien mené sa barque et qu'il est temps véritablement de baisser les taux d'intérêt dans la zone euro? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, maintenant, finalement? Certains disent, on aurait bien... il n'y aura pas de réunion de la BCE avant deux mois, donc certains auraient plaidé pour que ça se fasse dès aujourd'hui.
Dès aujourd'hui, oui.
Bien mener sa barque, je ne sais pas. C'est pas elle qui décide, c'est le Conseil des gouverneurs, donc c'est une décision collégiale. On n'a pas tellement l'habitude en France des décisions collégiales, donc c'est pas sa décision, c'est la décision d'un groupe de 24 personnes ou 25 personnes, si je me souviens bien. Moi, j'ai souvent dit sur ce plateau que la politique monétaire, c'est quelque chose à la fois d'extrêmement compliqué, sur lequel j'ai essayé d'être très prudent, d'autant plus prudent que beaucoup de banquiers centraux, et y compris des très bons banquiers centraux, j'ai pas dit que c'était son cas, c'était planté dans le passé. Ce que j'observe, mais c'est peut-être une réflexion à caractère plus général, c'est que ça tombe bien parce que juin, c'est aussi les élections européennes. Et j'observe que la question de l'euro, de la gestion de l'euro, ne devrait pas être un sujet d'hystérie pour les élections européennes et le début de la prochaine mandature de la Commission.
Ça ne l'est pas.
Ben ça, c'est peut-être un succès pour les gens qui pensent que l'euro, c'est une bonne chose.
Oui. Marc Landré. Oui.
Bah, cette non-décision est une non-surprise. Elle était attendue par les experts, cohérente, logique, annoncée. On sait depuis l'automne qu'on est sur un plateau en termes de taux d'intérêt. La question était quand est-ce que la baisse allait commencer? Est-ce que c'était au printemps? Est-ce que c'était au début de l'été? On a la réponse au début de l'été, c'est cohérent. La BCE mène la politique pour laquelle elle est mandatée, qui sont dans ses statuts. Elle le fait de manière indépendante. Elle n'a qu'un leitmotiv, l'inflation.
Oui.
L'inflation.
Oui.
L'inflation.
Et l'inflation, voilà, le mandat est clair.
L'inflation est en tendance à la baisse.
C'est ça l'avantage d'avoir un mandat aussi clair, c'est que vous êtes débarrassé de considérations politiques, c'est ça qui est formidable.
Hors crise fondamentale, comme le Covid. Oui. Au moins, c'est clair, net et précis, chirurgical.
Oui, non mais ça pose quand même un débat qui est pas neutre. Parallèlement à cette situation, l'économie a souffert. Parce que l'économie a souffert, on a continué à avoir, en tous les cas, on a retardé les mesures consistant à dire on arrête avec le quoi qu'il en coûte, parce que on voyait bien que
en France,
j'entends bien. Mais avouez, franchement, Marc, quelque part, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Vous avez un budget de l'État qui essaye de maintenir l'économie, voire de la booster, et de l'autre côté, une politique monétaire qui cherche au contraire à juguler l'activité. Mmh. Donc vous avez là une tension, et enfin, on va pas dire que l'un ou l'autre a raison.
Toute la difficulté de l'exercice, ça, c'est
mais
pas nouveau.
Mais on a deux entités publiques qui ont deux légitimités contradictoires.
Et deux objectifs et deux différents. Objectifs
différents. Et donc c'est enfin, quand même très très étonnant. Et au milieu, vous avez très objectivement aussi des entreprises qui se sont retrouvées dans des difficultés et qui sont en train de subir les conséquences. Est-ce que, enfin moi, le seul doute que j'ai, mais on ne saura pas trancher ce doute, c'est est-ce que les difficultés économiques globales, planétaires, sur l'énergie, les tensions du commerce international, ne suffisaient pas à ralentir l'économie et à parvenir à un ralentissement de l'inflation. Est-ce qu'il fallait en plus mettre des louchers de taux d'intérêt? C'est une question que l'on ne saura pas trancher ce soir.
Bruno, non, là-dessus, encore un mot, non. Non, bon, on attend le mois de juin, quoi.
Oui, alors après, la question, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis.
Ah, parce que mais c'est autant, pas la même, là. C'est... Là, vous avez vu que les échéances sont repoussées. Qu'on sont repoussées. Plus de baisse des taux avant le mois de septembre
exactement,
prochain.
Exactement, voilà, parce que la situation n'est pas la même qu'en Europe, parce qu'il y a les élections américaines aussi qui créent un certain nombre d'incertitudes, et parce que les prévisions, enfin, la réalité de baisse de l'inflation ne correspond pas aux prévisions. Elle est plus lente que prévu. Et donc, la Fed, qui a toujours eu tendance, par le passé, à être plus réactive et à tenir plus compte de l'évolution de l'économie que de l'inflation, là, pour l'instant, étant dans un entre-deux, et probablement que ça pourra avoir un effet sur la politique conduite par la BCE, en juin ou pas, en fonction des décisions qui seront prises ou non par la Fed aux États-Unis.
Voilà pour la Banque Centrale, donc, et Christine Lagarde attendue au tournant en juin prochain. Emmanuel Macron à Bergerac aujourd'hui, alors en mode économie de guerre, on va en parler dans un instant. Je voudrais juste vous faire écouter, parce que figurez-vous qu'à Bergerac, il y avait du monde. Et il y avait Bruno Le Maire, notamment, qui était là. Vous savez qu'on entend dire, on lit que les relations se sont rafraîchies entre les deux hommes. Bah, Emmanuel Macron a répondu à une question que lui a posée un journaliste. Est-ce qu'il y a une friture entre vous et Bruno Le Maire, vous savez, sur les hausses d'impôts? Ouh là là! Il est parti comme un geyser, le président de la République, sur ce coup-là. Écoutez ce qu'il disait tout à l'heure à Bergerac.
On garde le cap. Plein emploi, réindustrialisation, réarmement de nos services publics. Deux, on ferme tout de suite l'hypothèse de dire qu'on va régler ce choc conjoncturel par plus d'impôts. Maladie française, ça enlèverait de la confiance. Garde la confiance des ménages, des entreprises, de nos partenaires. Trois, on est responsable. Ce choc conjoncturel, on doit y répondre de manière appropriée et tout de suite. Ça a été les premières économies sur le financement de l'État. Et c'est deuxième partie, après le même taux d'effort d'économie, pour tenir un déficit de 5,1 cette année.
Je vais vous faire écouter, puis vous le voyez, pour ceux qui nous regardent à la télévision, parce que vous avez Bruno Le Maire qui est derrière, qui n'a pas un mot. Ouais, ça ne sent pas non plus la cordiale entente, finalement. Là, quand même.
Oui, mais bon...
C'est une sacrée séquence, quand même. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Quoi.
Non, mais objectivement, c'est une séquence qui est très intéressante, mais on est dans un moment où on sent bien que la situation économique se tend, les déficits sont là... Et on ne va pas en plus y rajouter une crise à Bercy. Donc, ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est non, il n'y aura pas de changement de tête à Bercy. Le cap, il est maintenu, on est raccord, et qu'on arrête ce petit scénario qui était en train de tourner, qui était de se dire, est-ce qu'il prépare le fait qu'il s'en aille de lui-même, ou est-ce qu'on prépare le fait qu'on va s'en séparer?
Ça ne va pas s'estomper d'ici les européennes, les spéculations.
Je pense que ça, on vient de clore la séquence.
Bruno, comment est-ce que vous regardez cette séquence, vous?
Il y a la péripétie politique. De toute façon, tout le monde a bien compris que le vrai ministre des Finances en France, il s'appelle Emmanuel Macron, et que ce que peut dire Monsieur Le Maire n'a absolument aucun intérêt. Ça, c'est la première chose. Comme la plupart des autres ministres, parce que tout se décide à l'Élysée, nous le savons tous très bien. La deuxième chose, c'est cette idée d'économie de guerre. Moi, je trouve ça très intéressant, et comme je suis un peu l'Européen de l'étape, comme je dis toujours, je trouve très noble l'idée de dire, et très juste l'idée, qu'il faut muscler notre économie et se préparer à consacrer des efforts, à s'armer, etc. Et d'ailleurs, il y a des idées européennes pour les prochaines élections européennes, la prochaine mandature, etc. Ce que je voudrais juste te dire, c'est que ça n'a pas l'ombre d'une crédibilité, ce que le président dit à Bruxelles. Ça n'a pas l'ombre d'une crédibilité. Quand vous êtes le cancre financier de la classe, ce qu'est la France, vous venez pas dans une Union européenne où on vous regarde toujours d'abord
avec cette question. Comment sont vos finances publiques? Parce que l'Union européenne, c'est d'abord un marché et des finances. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Et même si vous avez une arme atomique, etc., et des armées, une armée très bien, etc., vous êtes simplement pas crédible. Donc moi, ce qui me choque, c'est le décalage extraordinaire entre l'opération de com et les mots, l'économie de guerre, etc. Et comment tout ça est reçu?
Ça fait deux ans qu'ils parlent d'économie de guerre.
Oui, mais ça fait deux ans.
Moi, j'avais depuis Covid.
Mais encore
2022.
Mais encore une fois,
Covid.
Exactement. Exactement.
Déjà la guerre,
exactement.
Hein.
Mais encore une fois, mais sur le fond, moi, je pense qu'il a raison. J'avais en 2018, j'avais écrit un article qui disait il faut passer de l'État providence à l'État puissance. Et on était, j'ai pas le seul, beaucoup de gens. Donc moi, j'ai beaucoup de sympathie avec le principe. Mais simplement, je suis comme toujours. Comme toujours, avec nos présidents, c'est pas le seul, effaré entre le à quel point les mots sont perchés et la réalité est basse.
C'est tout. Marc Landré.
Je vais avoir une lecture un peu différente. Ça, c'est peut-être mon passé de rédacteur en chef au Figaro qui m'y pousse. On regarde cette séquence depuis quelques semaines, quelques mois, avec nos regards d'économistes. Donc, on regarde les chiffres, l'attitude à Bruxelles, etc. Je pense que on fait fausse route. Il faut regarder, il faut mettre ses lunettes politiques pour regarder la séquence actuelle. Les réponses, non-réponses, les coups de Trafalgar, Bercy, Matignon, l'Elysée. C'est quel est l'intérêt de l'un et de l'autre à jouer un jeu en ce moment?
Ah bah je vous le demande.
Bah,
l'intérêt de Bruno Le Maire, allez, on va
l'intérêt de Bruno Le Maire, c'est d'essayer de retrouver une crédibilité qu'il a perdue avec ses résultats économiques catastrophiques, dont il est responsable, redevable. À un moment où il écrit un livre en disant il faut faire des économies, la gratuité c'est fini, il faut taper dans le lard. Comme a dit le président de la République quand il a reçu le livre de Bruno Le Maire en main propre, tu devrais en parler au ministre de l'économie qui est là depuis 7 ans.
Ouais, c'est ça.
Donc on est dans un jeu, une séquence politique où chacun est en train de se regarder, de se jauger, parce que l'un comme l'autre, à des degrés divers et avec des intérêts divergents, prépare 2027. Et donc la question n'est pas de savoir ce que dit ou pense Bruno Le Maire, c'est quelle est sa stratégie pour se mettre en position de rampe vis-à-vis de 2027 par rapport à ses concurrents internes au sein de la majorité que sont Édouard Philippe aujourd'hui et Gabriel Attal.
Mais je suis d'accord avec le propos de Marc Landré. C'est effectivement un moment très politique, mais finalement, il vient d'être politiquement clos. Je veux dire par là que chacun vient de se dire c'est pas le moment.
Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire qui peut très bien arriver la semaine prochaine.
Mais de dire ce n'est pas le moment. Et ce n'est pas le moment, c'est peut-être sur leurs intérêts politiques, mais je pense aussi, et ça, de ce point de vue-là, c'est aussi l'intérêt de la France, c'est certainement pas le moment. Lorsque les chiffres commencent à déraper, lorsque on a des agences de notation qui peuvent nous mettre vraiment dans une situation très compliquée, et tout ça à quelques semaines des Jeux Olympiques.
Surtout à 2 mois de l'élection européenne.
Et à 2 mois de l'élection européenne. Ce n'est pas le moment. Et je pense que ce n'est pas le moment, Bruno. Ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour le pays.
Bruno Alomar.
Moi, je trouve que c'est la façon dont on réagit est très symptomatique du problème. Ça fait 3 minutes qu'on en parle. On ne parle pas du réel. On parle des jeux politiques.
Je ne suis pas totalement d'accord avec vous sur le réel.
C'est parti sur l'Europe de la défense.
Je ne suis pas d'accord avec vous sur le réel.
Bien sûr qu'à un certain moment, il y a un peu de réel qui vient des jeux politiques, etc. On élit des gens, c'est la démocratie, etc., etc. Mais les vraies questions à se poser, c'est est-ce que ça avait du sens d'aller à Bergerac? Qu'est-ce qui concrètement va être fait?
Vous posez la question de savoir si ça avait du sens à Bergerac.
Je pense que oui. Je pense que c'est oui, parce qu'en l'occurrence, là où j'ai un désaccord avec vous sur le réel, les chiffres sont pas bons, il va pas dire qu'ils sont bons. Mais on a une stratégie d'investissement et la stratégie d'investissement, on le sait tous, ça prend du temps. Le moment où on met l'argent, on mobilise France 2030, la BPI sur l'accompagnement de la réindustrialisation, on n'a pas les résultats en temps médiatique, ni d'ailleurs en temps politique. Ce sont des résultats qui arrivent 2-3 ans après, dans le meilleur des cas. Donc oui, c'est très important d'être à Bergerac, c'est très important de donner ce signal, et les résultats concrets en termes de production souveraine, en termes d'emploi derrière et de création de richesses, ils viendront un peu plus tard.
Non, Bruno n'est pas convaincu.
La réalité des chiffres, ça c'est l'ancien budgétaire du ministère des Finances. L'ancien budgétaire du ministère des Finances qui parle, c'est que quand on a les déficits qu'on a, on n'aura pas de quoi financer nos besoins militaires, nos porte-avions, nos avions, une armée de métiers avec des gens motivés et de très haut niveau. On arrive à un moment où on n'aura plus l'argent pour le faire. Et ça, c'est pas des fantasmes, c'est la réalité de la contrainte financière dans laquelle nos élites
politiques sont pas contradictoires. Nous ont mis et qu'il faut bien constater.
Les deux ne sont pas contradictoires. Quand on est en phase d'investissement, on peut dire vous êtes en perte. Non, on est en phase d'investissement et c'est pas la même chose.
Voilà pour ce déplacement d'Emmanuel Macron à Bergerac, qui a remis un petit coup de pression évidemment sur les industriels en disant oui, effectivement, c'est du temps long, mais il y a toujours cette menace des réquisitions qu'anime Sébastien Lecornu depuis maintenant des semaines. Réquisition de stock, d'unités de production, de personnel, voilà.
Et c'est pas une mauvaise chose d'avoir cette pédagogie vis-à-vis du pays.
Allez, 19h30 sur BFM Business.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage, la gestion intelligente qui réinvente la finance.
BFM Business, l'info éco.
Allez, 19h30, je vous donne les grands titres de l'actualité ce soir. Donc toujours pas de baisse de taux d'intérêt dans la zone euro. La Banque Centrale les a laissés à 4%, mais Christine Lagarde a quand même laissé entendre lors de sa conférence de presse que la prochaine pourrait être la bonne, à savoir le mois de juin prochain. Emmanuel Macron, donc à Bergerac, sur un thème qu'il déroule depuis 2 ans. La France, il le répète, est entrée en mode économie de guerre. Il est allé poser la première pierre d'une usine de poudre pour obus. Il en a profité pour remettre un petit coup de pression aux industriels, puisqu'il leur a redemandé de mener un effort durable, je cite, pour produire plus et plus vite sur le sol français. Emmanuel Macron qui a fait aussi une mise au point. Il n'y aura pas de hausse d'impôts pour régler le choc conjoncturel actuel. On ferme tout de suite cette hypothèse. Je cite le président de la République, message que distille à souhait Bruno Le Maire, son ministre de l'économie, qui était donc aussi du déplacement. Et puis en France, ça a été une des annonces choc de la journée. ExxonMobil qui va réduire la voilure en France, qui supprime 677 postes, qui va notamment fermer la raffinerie de Fos-sur-Mer, qui est l'une des 7 raffineries basées en métropole. Exxon explique que ses activités ne sont tout simplement plus assez compétitives. 19h32, on revient dans un instant avec nos experts qui sont là jusqu'à 20h. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h34, on est de retour jusqu'à 20h avec nos experts. Marc Landré est avec nous, Bruno Alomar aussi, et Leonidas Kalogiropoulos également. Je veux dire un petit mot de ces chiffres qui sont tombés ce matin. Chiffres des défaillances d'entreprises du premier trimestre. C'est le cabinet Altares qui fait référence sur le sujet, qui nous donne ces chiffres. Voilà, qui nous dit, voilà, au premier trimestre 2024, il y a eu un peu plus de 17 000 défaillances d'entreprises enregistrées. Et sur un premier trimestre, on n'a pas vu des chiffres pareils depuis 9 ans, depuis 2015. Mais écoutez, Thierry Millon, le directeur des études d'Altares, qui était avec nous tout à l'heure sur BFM Business, il nous dit globalement, on n'est pas trop inquiet chez nous de ces chiffres. Écoutez ce qu'il nous disait.
Nous sommes, après la Covid, à attendre que les niveaux de défaut soient très élevés, et ils le sont. Et nous avons un premier trimestre qui continue, comme le quatrième de 2023, à être élevé. En revanche, plus 20%, même si ça reste beaucoup, c'est deux fois moins que ceux que nous avions au cours des 2 années précédentes. Ouais. Pour autant, en termes de tendance, parce que c'est là où les données sont les plus sévères, c'est sur les PME, de 50-200. Donc, nous sommes sur des employeurs de territoire, donc toutes les régions. Et nous avons là, évidemment, une économie qui est fragilisée parce qu'il s'agit de sous-traitants, d'équipementiers qui, s'ils sont en défaut, évidemment, ne pourront pas servir la filière, même si cette filière devait être une filière en forte activité.
Voilà, Thierry Millon, directeur des études d'Altares. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit. Il y a un an, rappelez-vous, on disait le phénomène était surtout concentré sur les TPE. Là, c'est du côté des PME que ça s'agite, malheureusement, de plus en plus.
Oui, non, mais c'est clair. Mais c'est
là, il y a un souci, on est sur des gros employeurs. Quoi.
Ah oui, non, mais c'est l'énergie, c'est le crédit. Enfin, il n'y a pas que les impôts qui, lorsqu'ils augmentent, fragilisent les entreprises. Les conditions de marché sont globalement au ralenti. Oui, il y a une croissance au ralenti. Et il y a les PGE à rembourser. Enfin, tout ça, ce sont des circonstances qui font que la situation économique se contracte. Eh bien, il y a des défaillances. Parallèlement, on est toujours sur des pics toujours dépassés de création d'entreprises.
Ouais. Grâce aux auto-entrepreneurs.
Pas seulement, non,
Marc, majorité quand même.
Mais vous le savez fort bien, ça n'enlève en rien le fait que le tiers d'entreprises de plein exercice, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont créées, sont toujours plus haut de mois en mois, d'année en année. Et ce tiers, c'est quand même 300 000 entreprises qui se créent en France. Alors, vous pouvez dire qu'il y a deux tiers d'auto-entrepreneurs.
Je vous ai vu tiquer quand Leonidas, Marc, disait il y a les PGE à rembourser. Si, ça fait partie de l'équation,
oui,
quand même.
C'est l'équation,
qu'il y ait une augmentation des défaillances d'entreprise quand l'économie se dégrade, c'est tautologique. C'est une, oui. c'est digne de monsieur de la Palice. Oui, donc on ne peut pas s'attendre à autre chose.
On va être à 64 000 sur cette année, hein, qui est quand même un petit peu supérieur au rythme de croissance des
autres années. Problème, il est que pendant des années, on a maintenu l'économie et les entreprises, notamment les PME sous perfusion, et qu'on a engendré un certain nombre d'entreprises zombies qui aujourd'hui défaillent.
Les entreprises zombies, elles n'ont pas 50 salariés quand même.
Non, mais elles en ont plus. Et là, on parle d'entreprises qui ont plus de 50 salariés, qui sont défaillantes.
Il n'aime pas le terme d'entreprise
zombie. Oui, mais peu importe. On peut trouver
Non, mais il y a des entreprises zombies de 3, 4 salariés.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le quoi qu'il en coûte a aujourd'hui cet effet nocif qu'on a maintenu sous perfusion des entreprises qui auraient dû mourir et qui meurent aujourd'hui. Et donc, en vérité, on n'a qu'un effet de décalage, des défaillances qui ne sont pas intervenues au moment de la crise du Covid, qui interviennent maintenant et qui se cumulent avec le flot naturel de défaillances d'une économie en perte de vitesse, avec des instantanés ou des fondamentaux qui vont pas bien. Et on regarde quoi ? C'est dans le bâtiment, c'est dans les services aux entreprises.
Mobilier,
donc c'est assez classique.
Le bâtiment va très mal, effectivement.
Le bâtiment va très mal. Il y a le secteur qui reprenne un petit peu.
Sur les PGE, parce que vous m'avez posé la question.
Oui.
Sur les PGE. Les PGE, c'est 5% de la dette des entreprises en France.
Oui, c'est pas grand-chose.
Et ce qu'on ne sait pas, notamment des PME, et les PME ne le savent pas parce que le job est mal fait et mal dit, la communication est mal passée. On peut rééchelonner ces PGE et aller jusqu'à 10 ans de rééchelonnement. Donc ça, les entreprises ne le savent pas.
A priori, les entreprises qui le font sont dégradées dans leurs notes. Et
pour 6 mois, pas plus. Et j'invite n'importe quelle entreprise qui se pense être dégradée à intervenir auprès du médiateur de crédit qui va, non pas résoudre la situation, mais qui va en tout cas avoir une oreille bienveillante pour faire en sorte que la Banque de France ne soit pas trop sévère sur ces questions-là.
Bruno Alomar, il vous inquiète ces chiffres donnés par le cabinet Altares?
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. D'abord, c'est très logique que quand le climat économique global et la croissance se réduisent, ça a été dit. La vraie question, c'est est-ce que la croissance potentielle de la France va repartir.
Ah. Vous avez les nouvelles projections de Bruno Le Maire, alors c'est la fête pour les prochaines années. Hein. 1% cette année, de mémoire, attendez.
Ouais, ça,
1% cette année, 1,4.
1,4, 1,8.
À 4
à 8.
Bon, tout va bien alors. On a un grand économiste à Bercy. Voilà. Bon. Donc, une fois qu'on a dit ça.
Vous permettez de le croire
par ailleurs.
Je pense que c'est vous. Hein.
Par ailleurs.
Je pense que c'est faisable.
C'est vrai
Je pense que c'est faisable parce que
Oui, c'est faisable. Enfin,
on est en train d'investir dans des filières qui sont des filières d'avenir.
Bon. Une vraie question derrière tout ça, c'est. Encore une fois, il y a celles qui se détruisent, mais il y a celles qui se créent. C'est Frédéric Bastiat qui disait en économie, il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on voit pas. Donc, il faudrait avoir le solde. C'est un petit peu grossier parce que il faut voir concrètement combien il y a de personnes et les secteurs, etc., etc. Après, la vraie question, c'est on est en 2024, entreprendre, développer de l'activité économique aujourd'hui dans cet océan de contraintes, est-ce significativement plus facile et donc mieux pour tout le monde que ça l'était, par exemple, en 2017? C'est une vraie question.
Enfin, votre
question est rhétorique parce que au ton de votre voix, on a la réponse.
Oui, on sent.
On sent qu'il y a
un début de réponse.
Oui, mais comment vous projetez alors le nombre de domaines dans lesquels il y a des investissements productifs? Et puis autre chose qui est une inflexion qui me semble très intéressante, c'est que l'État est en train de se dire, quitte à ce que je mette de l'argent sur certains secteurs, je pense à un secteur que j'accompagne actuellement, qui est celui des fauteuils roulants pour personnes en situation de handicap. Le président de la République a dit qu'il allait prendre en charge, il fallait que la France prenne en charge le remboursement intégral. Aujourd'hui, 95% des fauteuils roulants en France sont fabriqués en Chine. Heureusement, il y a une prise de conscience, c'est-à-dire quitte à ce qu'on mette tout cet argent sur la table, peut-être qu'on ne va pas le faire pour creuser davantage notre déficit commercial et essayer de voir comment on peut en faire une filière industrielle en France. Tout ça, ce sont des inflexions dans le raisonnement, des inflexions heureuses qui, derrière, si elles fonctionnent, emmèneront beaucoup de croissance.
Bruno, pour conclure là-dessus.
En l'état, M. Macron, c'est 1000 milliards de plus de dette. J'ai pas du tout l'impression que l'économie française aille mieux aujourd'hui qu'en 2017. Voilà, mais j'ai peut-être tort.
Bien. Écoutons Gabriel Attal.
Excusez-moi, juste pour conclure, on peut être d'accord avec les deux points de vue. On peut considérer. Non, mais je vous le dis.
C'est le en même temps
macronien. Non, c'est pas du tout le en même temps macronien. On peut tout à fait reconnaître, sans se cacher les yeux, que les résultats économiques devraient être meilleurs que ceux qu'ils sont aujourd'hui, tout en considérant que l'on a considérablement investi dans des filières d'avenir et qu'à un moment donné, cet investissement paiera.
Écoutons Gabriel Attal, qui pendant ce temps est arrivé au Canada. Il a donné une conférence de presse avec Justin Trudeau tout à l'heure à Ottawa. Alors, vous me voyez venir, ils ont parlé du CETA, vous savez, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Vous savez qu'il y a 3 semaines, le Sénat français a voté contre sa ratification. Donc, Gabriel Attal a tenu à rassurer Justin Trudeau. Oui, c'est un bon accord. Sous-entendu, on va y arriver. Écoutez, tout à l'heure.
C'est un accord gagnant-gagnant et on le voit aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas. Depuis qu'il a été signé, depuis qu'il est en vigueur, c'est-à-dire depuis à peu près 6 ans, les échanges entre nos deux pays ont progressé de plus d'un tiers. Et ils ont progressé de façon équilibrée. Il y aurait beaucoup à perdre pour l'économie française, globalement pour nos économies, à ce que le CETA ne s'applique pas.
Alors là, c'est une opération des minages, Bruno Alomar. On peut le dire comme ça, finalement, pour Gabriel Attal. Là, sur,
ah bah oui, mais c'est normal. Il est tout à fait dans son rôle. Non, moi, je voudrais faire 2-3 observations là-dessus. On ne peut pas vouloir tout et son contraire en matière européenne. Là, c'est le professeur en question européenne qui parle. On voudrait que l'Union européenne soit plus démocratique. Et donc, par exemple, que le Sénat français puisse s'exprimer sur le sujet. Ben, si on fait ça, et si on fait ça avec tous les pays, il y avait eu un sujet il y a 2 ou 3 ans avec la Wallonie, M. Magnette, un Européen, qui avait bloqué, je me souviens, ben, on ne peut pas voir tout et son contraire. On ne peut pas dire d'un côté, encore une fois, il faut que l'Union européenne elle soit plus démocratique, mais en même temps, il faut qu'elle soit plus efficace. Et moins technocratique. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est peut-être pour vos auditeurs ou téléspectateurs, il y a cette idée qu'on oublie toujours, c'est que un accord de libre-échange, pour prendre une image, c'est du sur-mesure sur un costume. Mais on n'a pas besoin d'accord de libre-échange pour faire du commerce. On n'a pas d'accord de libre-échange avec la Chine et on n'a pas d'accord de libre-échange avec les États-Unis. Et on fait du commerce avec eux. Donc, ce n'est pas du tout pour dire qu'il ne fallait absolument pas en faire. C'est pour dire qu'il faut peut-être ne pas donner trop d'importance au fait qu'on a des accords de libre-échange.
C'est une question de timing. C'est arrivé en pleine crise agricole sur le Mercosur. Vous avez vu comment ça s'était fini. C'est une question de séquence. Marc Landré.
C'est un sujet compliqué parce que où les amalgames se multiplient, croisés avec de l'opportunisme politique. Et on fait payer un traité qui a été bien négocié, qui a de bons résultats, les affres de la politique française, à un moment où il y a, comme vous le disiez, une crise agricole, à un moment où on est à la veille des élections européennes où le gouvernement de la majorité est en difficulté.
Les communistes ont trouvé un trou de souris il y a quelques semaines.
Avec les Républicains au Sénat pour voter contre un texte. Après, c'est la démocratie. Je veux dire, soit on vit en autocratie, et je pense qu'effectivement Emmanuel Macron, il aime ce mot d'autocratie, et il en est peut-être même un synonyme, et la souveraineté du Parlement. Mais ça me fait penser exactement à la Constitution européenne de 2005. Hein. Le peuple français vote contre, on s'en fout. On s'en fout.
Bon.
On s'en fout et on le fait ratifier 3 ans plus tard en douce. Bon, bah là, qu'est-ce qui va arriver?
Quand même.
Je me permettrai d'être en désaccord sur le fait de le ratifier en douce, quel que soit ce traité. Le candidat Sarkozy en 2007 a été très clair. Il a dit je proposerai aux Français un traité parce qu'il y a besoin d'un traité et il ressemblera énormément au traité que vous avez refusé par référendum. Donc, simplement, voilà, dire en douce, c'est. Pour reprendre votre expression, un peu plus compliqué que ça.
Bon, on ne peut pas faire du sur-mesure. J'aime bien, j'achète l'expression, on ne peut pas faire du sur-mesure dans les accords commerciaux.
Mais enfin, écoutez, en tous les cas, là, c'est vrai que la démocratie, c'est plus compliqué que l'autocratie. Mais l'autocratie, il y a plein de désavantages.
Je suis d'accord.
Moi, je prends la complication de la démocratie avec ses désavantages et avec ses avantages aussi. Je pense que l'équilibre est gagnant.
Bruno. Peut-être aussi un complément, c'est que si on, entre guillemets, on dézoome un tout petit peu, ce problème de la France et du commerce, et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, le problème c'est que commercialement, l'Union européenne, globalement, ça marche. Elle est encore excédentaire. Mais dedans, il y a un pays qui ne marche pas du tout. C'est le nôtre. Et ce pays fait en grande partie peser sur le système européen la responsabilité de ses propres erreurs. La désindustrialisation, c'est les 35 heures, les impôts de production trop élevés, l'école qu'on a détruite, les services publics qui marchent pas bien, etc. Tout ça, c'est franco-français. Et Emmanuel Macron, je me souviens très bien, juste avant d'être élu en 2017, il avait dit, mais c'était aussi une campagne électorale, il avait dit « l'Europe est trop naïve, il faut que ça s'arrête, tout ça ». C'est exactement le sujet qui n'a toujours pas changé. Mais quelques semaines après son élection, il y avait 6, 7, 8 États européens du Nord poussés par l'Allemagne comme d'habitude.
Les frugaux.
Voilà, il est pas question de rien changer à la politique commerciale de l'Union européenne parce que globalement, elle marche. Je pense moi plutôt qu'elle marche. Mais...
Marc Landré.
C'est un point là, on prend la loupe et on regarde la situation entre la France et le Canada, mais on oublie de demander à nos partenaires européens ce qu'ils pensent de cette défiance du Parlement français par rapport à un accord gagnant-gagnant. Ça nous fragilise encore plus sur la scène européenne, je dirais plus que par rapport au Canada.
Non, mais c'est pour ça que Gabriel Attal est au Canada, pour effectivement dire...
Il devrait être à Bruxelles, à mon avis.
Ce n'est pas... le Sénat qui est à lui tout seul... le reflet du pays dans son intégralité. Là où je trouve effectivement, mais ça fait partie des jeux démocratiques, ce vote du Sénat est vraiment un vote malheureux. C'est vraiment un vote politicien dans le sens le moins noble du terme.
Je voulais avoir votre avis sur ce qui a été quand même une des annonces chocs de la journée en France. Vous avez vu ExxonMobil qui réduit la voilure en supprimant 677 postes. Alors ils vont vendre notamment la raffinerie de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, un vapeau cracker aussi en Seine-Maritime. 677 emplois supprimés au total. Peut-être s'intéresser plus à ce qui se passe du côté de Fos-sur-Mer, parce qu'ils le disent très clairement, on est sur une activité qui est plus compétitive aujourd'hui, malheureusement, par rapport à d'autres entités. Bah oui, parce que le raffinage, il faut acheter sa propre énergie, du gaz, de l'électricité, que le gaz coûte encore plus cher aujourd'hui qu'avant période avant Covid. Donc finalement, on s'y retrouve de moins en moins. Finalement.
Oui, mais c'est vrai que globalement...
Et puis la montée en puissance de l'électrique, alors pourquoi...
Mais oui, mais on est en train... Voilà. On est en train je ne suis pas certain que la planète dont le climat n'a pas de frontières gagne beaucoup à ce qu'on ait des activités dans le pétrole que l'on importe.
La demande
et qu'elle soit...
Mais il y en a de moins en moins. La demande est là.
La demande est là et pour longtemps.
Un certain temps, Léonidas.
Et on néglige les performances de notre propre industrie en se résignant à importer ce dont nous avons besoin, qui est généralement produit dans des conditions infiniment moins écologiques dans d'autres pays. Mais on se dit, mais nous, là, on a bien fait les choses. La manière dont Total est attaqué, dont l'ensemble de notre industrie pétrochimique est attaqué, me semble être vraiment une absurdité idéologique absolument radicale.
On soit d'accord, Fos-sur-Mer ne ferme pas, l'activité va être racheté.
Oui, il va être racheté, absolument. Bon, mais on néglige et on néglige son équilibre économique, soi-disant parce que elle est condamnée à mourir, mais non, elle n'est pas condamnée à mourir avant très très longtemps.
Marc,
donc on devrait y faire attention.
D'accord. Marc Landré.
Deux données pour bien comprendre le fond du problème. La majorité des raffineries qui sont aujourd'hui en activité en France datent des années 30.
Oui.
Datent des années 30. Donc elles ont un siècle. Beaucoup ont déjà fermé, et donc, en vérité, ne reste que celles qu'on a réussi à peu près à replâtrer. Pourquoi, aujourd'hui, cette filière est en décrépitude et a vocation à mourir ? Parce que personne, aucun industriel ne va investir dans ses capacités productives en France, alors que... Et surtout à un moment où la demande mondiale continue d'augmenter et où on a des créations d'usines ultra-modernes.
Absolument.
En Inde, en Chine, qui fabriquent du brut raffiné beaucoup moins cher.
Exactement.
Et qu'il est plus avantageux au prix d'une écologie désastreuse, je vous l'accorde,
de faire venir
d'ici.
Oui,
oui. Donc c'est factuellement, et c'est l'offre et la demande, c'est de l'économie de base, ma fille qui est en quatrième est tout à fait capable de le comprendre. Il n'y a pas d'avenir à cette filière, on n'investit pas dedans parce que ce n'est pas avantageux d'investir et que de toute façon...
Mais Marc, vous êtes bien d'accord. Néanmoins, que si on arrêtait d'accuser Total à chaque fois qu'il met 1 euro d'investissement dans le pétrole, de continuer à investir dans les hydrocarbures, et qu'on acceptait l'idée
que... Mais ils investissent pas en France.
Non,
mais c'est ailleurs.
Bon, mais écoutez, j'aimerais bien les voir investir en France et j'aimerais bien que l'on ait un certain consensus, c'est-à-dire que tant qu'on en a besoin, autant le faire aux standards de performance qui sont les nôtres.
Je cite ce que disait le président de l'Union française des industries pétrolières, Olivier Gantois, qui disait aujourd'hui, en 2050 en France, il y aura peut-être encore une, voire plusieurs raffineries qui traiteront du pétrole. Mais il y en aura d'autres qui n'en traiteront plus et il est probable que celles qui traitent encore du pétrole traiteront à ce moment-là un mélange de pétrole et de biomasse. Bah oui, ça, voilà. Donc ça... Il y a des besoins.
Non, mais il y a les besoins, et les besoins, on est très très loin d'avoir épuisé les besoins. Donc autant essayer de monter en gamme et de permettre les investissements. Là, véritablement, il y a à la fois de l'économie, mais aussi de politique.
Marc-André. Une fois de plus, on est dans un moment de désymétrie entre la France et le reste du monde. En France, les besoins diminuent parce qu'on fait des choix politiques d'électrification du parc automobile ou alors de stigmatisation du chauffage au fioul. Donc ça veut dire qu'on fait le choix en France de tuer une filière aujourd'hui, alors que dans le reste du monde, cette filière, elle marche bien, elle est poussée et comme vous le disiez, effectivement, les investissements continuent pour correspondre, pour coller à ce que la production colle à une demande qui est en hausse.
Où est-ce qu'on en sera dans quelques années quand on reparlera avec l'électrification, quand on aura repoussé peut-être l'échéance de 2035 sur la fin des ventes du thermique. Voilà, peut-être à ce moment-là, on regardera ça d'autres. Allez, un peu plus de 4 minutes, l'extra time pour terminer cette émission comme tous les soirs. Vos avis, vos coups de gueule ou coups de cœur sur 30 secondes. Oh, vous aurez peut-être même un petit peu plus de temps parce qu'on est en avance ce soir. Donc, faites-vous plaisir. Bah, Bruno, allez, Bruno Lomar, est-ce que vous voulez commencer 30, allez, on vous laisse 45 secondes si vous voulez, Bruno, pour discuter sur le thème.
Alors, c'est un peu les deux, un coup de cœur et un coup de gueule. Ouais. Il y a eu un article, je crois, dans Le Monde de Daniel Cohn-Bendit et de Sylvie Goulard, qui était l'ancienne candidate pour être commissaire européen. Et ils disent tous les deux quelque chose de très juste. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis pas d'accord, mais quelque chose de très juste. Ils disent, il y a une espèce de train européen vers l'élargissement à tout prix à 35 États membres. Et en même temps, on nous fait croire que l'Union européenne peut continuer à s'approfondir. Or, les deux choses s'excluent. Je pense qu'ils ont raison et que on a des élections européennes. C'est le moment de se dire certaines choses et de faire des choix. Voilà.
C'est-à-dire aller plus avant ou alors se dire on reste à 27
et Moi, je pense que l'Union européenne, elle est déjà bien bancale à 27 et que il faudrait l'élargir dans beaucoup, beaucoup plus de temps que ça. D'accord. Et ça ne vaut pas que pour l'Ukraine. Bon. Ça vaut pour les autres pays aussi.
Léonidas, d'un mot, très vite.
Oh, moi, très, très clairement, je pense que l'Union européenne répond à des besoins géopolitiques et que le besoin géopolitique aujourd'hui, c'est d'intégrer l'Ukraine et d'intégrer la totalité des États qui sont menacés par l'expansionnisme russe. Et de ce point de vue-là, non seulement elle serait dans son rôle, mais peut-être qu'il y a d'autres États qui ne seraient pas totalement légitimes à être dans l'Union par rapport à ce risque-là. Mais ce risque-là, c'est la raison d'être de l'Europe. Si on refuse que l'Europe réponde à sa raison d'être, elle a perdu toute espèce d'existence historique et pour longtemps.
Très bien, coup de gueule, coup de cœur à la fois de Bruno Lomar ce soir. Marc Landré, c'est à vous, 30, allez, 40 secondes, ne soyons pas bégueulés.
45, c'est parti. Allez, un peu d'autres promo, une fois n'est pas coutume. J'invite l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs à aller sur le site de SIA Partners pour découvrir les résultats d'une étude que nous avons conduite avec Marion Cannon sur l'offre de services entreprises de France Travail. On a sondé plus d'un demi-millier d'entreprises pour savoir quelles étaient leurs pratiques en matière de recrutement, pourquoi ils faisaient appel ou non à France Travail et quelles étaient leurs attentes par rapport au demain. Franchement, les résultats sont significatifs, sont très intéressants. Un, les entreprises ne connaissent pas l'offre de service qu'il aurait proposée par France Travail. Et deux, il y a un véritable changement et un ADN qui est exigé, qui est demandé pour aller vers une offre de service puissante, vers une expérience collaborateur, une expérience entreprise intéressante et un changement d'ADN qui est demandé. On veut que les conseillers entreprises connaissent les métiers, connaissent les entreprises, prospectent en entreprise et ne fassent pas que du traitement des demandeurs d'emploi. Franchement, allez-y. Regardez cette étude qui a été commentée et qui a été valorisée par le directeur général de France Travail lui-même, Thibaut Gulli. Vous ne perdrez pas le voyage.
France Travail, il y a du boulot en quelque sorte. Voilà.
Ah bah, tant mieux, heureusement.
Tout est à construire pour France Travail qui a vu le jour il y a quoi, il y a quelques mois.
Il y a quelques mois, 1er janvier.
1er janvier, absolument. Le coup de gueule, le coup de cœur, donc c'est un coup de cœur ce soir.
Ah bah oui, Marc Landré,
pour le gros cœur. Léonidas Kallogiropoulos, une minute à peine pour vous, Léonidas, on vous écoute.
Merci, écoutez, c'est un peu dans la lignée de Marc Landré, mais c'est un coup de cœur et je fais toujours des coups de cœur pour les entrepreneurs pour la République. En l'occurrence, il n'est pas sur la plateforme Entrepreneurs pour la République, mais je voudrais en faire un pour Hugo Traverse qui a une plateforme qui s'appelle Hugo Décrypte. Et Hugo Décrypte, c'est 14 millions de followers.
Impressionnant.
C'est impressionnant.
Ouais, impressionnant.
Et en l'occurrence, il a décidé de mettre ce média, son média, à la disposition des jeunes, du travail, de l'ouverture à toutes les formes de compréhension des nouveaux métiers, toutes ces passerelles entre les jeunes en recherche de stage, en recherche de leur premier emploi. Et c'est finalement un influenceur qui dit que plutôt que de mettre son aura au service de je ne sais quelle glace, parfum ou autre cosmétique, il va le faire au service de l'intérêt général. Et je le dis vraiment avec d'autant plus de conviction que c'est vraiment une cause nationale. Et j'ai vu le président du MEDEF, Patrick Martin, saluer également cet engagement. Oui. Je pense qu'on est tous derrière, tous ces entrepreneurs qui apportent des réponses aux problématiques d'intérêt général. Vraiment la lignée des entrepreneurs pour la République.
Et ben voilà pour le coup de cœur. Par là, c'était clairement un coup de cœur de Leonidas.
Clairement, pour votre adresse.
Clairement. Merci messieurs, 19h55. Merci. Merci à tous les trois d'être passés. Marc Landré, Bruno Lomar et Leonidas Calogero-Poulos. À très vite avec plaisir pour de nouvelles aventures. 19h56 dans un instant. Tekkenco avec François Soal. On rappelle 20h45, interview exclusive. Elle dure trois quarts d'heure du patron de Grok, Jonathan Ross. Grok, vous savez, c'est cette start-up qui veut venir défier Nvidia sur son terrain de jeu. C'est absolument passionnant. Ça sera à suivre à 20h45. Et puis nous, on se retrouve maintenant, bien sûr, demain soir à 18h pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.